Vous êtes sur Easy French.
Bonjour tout le monde.
Salut.
Salut, salut.
Alors, comme vous l'entendez, aujourd'hui, on a un invité un peu spécial. Il s'appelle Louis. Comment ça va, Louis ?
Ah bah ça va super, je suis très heureux et en même temps très impressionné d'être là avec vous les filles.
Louis, il est artiste, musicien, ingénieur du son et c'est la personne qui édite notre podcast toutes les semaines. Et avec Hélène, on a estimé que ce serait intéressant pour vous d'apprendre un peu de lui et de son métier en France. On y va les gars ?
Allez !
C'est parti !
Le sujet de la semaine.
Alors, aujourd'hui, Louis, c'est toi le sujet de la semaine.
Quel honneur.
Alors, si tu veux bien, pour commencer, répondre à une petite question. Quand on te demande ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que tu réponds ?
Alors ça, c'est une très bonne question. Maintenant, je dis je suis musicien, ingénieur du son, compositeur et ingénieur du son. Mais au début, ça dépendait vraiment du contexte et qui j'avais en face de moi. Parce que le fait d'avoir plusieurs métiers, pour certaines personnes, ça fait bizarre de faire plusieurs choses à la fois. Et puis même, des fois, avec certaines personnes, dire qu'on est artiste ou compositeur, ça peut être pas très sérieux. Avec les beaux-parents, par exemple, je disais plus, oh bah, je suis ingénieur du son. Ça faisait un peu plus sérieux. Quand j'avais un rendez-vous professionnel pour être compositeur sur un film, je disais que j'étais que compositeur parce que je n'osais pas dire que j'étais aussi technicien, ingénieur du son. Mmh. Mais aujourd'hui, je dis les deux et j'en fais plutôt une force que cacher un peu une partie de moi. Voilà.
Ouais, parce que donc, il y a une partie de ton boulot qui est plutôt technique.
Oui, c'est ça.
La partie ingénierie du son et une partie plus créative.
Voilà, c'est ça.
Alors, peut-être pour que nos auditeurs puissent comprendre un peu mieux ce que c'est ton boulot, est-ce que tu pourrais nous décrire un peu, si tu en as, une journée type de travail ?
J'aimerais vraiment en avoir une, mais en fait, finalement, chaque journée est très différente. Mais en gros, j'aime bien le matin être plutôt créatif, parce que je me dis que c'est là où j'ai toute ma concentration. Et j'aime bien aller très tôt, là où je suis actuellement dans ma petite régie, pour travailler mes instruments, le piano, la guitare. Et ensuite, souvent l'après-midi, ou des fois je travaille dans des salles de spectacle, ou je vais dans des studios de doublage, où je vais enregistrer des comédiens qui vont doubler des séries. Ça dépend un peu chaque jour, mais des fois, je suis pendant plusieurs jours dans un studio qui n'est pas chez moi pour enregistrer un disque, par exemple. Ou des fois, je suis en tournée pendant 10 jours, donc je ne suis jamais chez moi. Mais j'aimerais avoir ce truc-là, de venir chaque matin pour pouvoir travailler ma musique. Sinon, après, chaque semaine, j'ai quand même certains rituels, même si toujours c'est pas pareil. J'ai le podcast d'Easy French, voilà, ça me fait mon petit rendez-vous hebdomadaire où je vous entends raconter plein de choses très intéressantes. Je fais de l'orgue à la synagogue, donc toutes les semaines, je joue le vendredi soir pour accompagner les offices, donc ça, c'est tous les vendredis. J'ai beaucoup d'élèves de piano, pour les enfants, c'est quand même très souvent les mêmes jours de la semaine. Voilà, en gros, un petit aperçu.
Mais il faut vraiment être hyper organisé pour mener tous ces projets de front.
Oui, après, ça se fait naturellement. Quand je vois qu'il y a trop de choses, je vais annuler, mais souvent, ça va.
En tout cas, pour le montage de nos podcasts, tu es toujours très à l'heure, voire très en avance.
C'est aussi un métier passion, donc c'est quand même très, très sympa. Et puis en plus, il y a quand même une relation, on en parlera plus tard, peut-être dans le bonus. Je travaille avec vous parce que je connais Judith depuis des années et des années.
Oui, j'ai oublié de le mentionner au début du podcast, mais Louis est avant tout un des meilleurs amis.
C'est ça. Ça fait 15 ans, depuis 2008, on se connaît. Donc c'est très rigolo d'entendre Judith parler de plein de sujets que même moi, je ne savais pas qu'elle pensait tout ça. Donc, c'est assez rigolo. Et puis, vous formez un très beau duo, donc c'est toujours très rigolo.
Merci beaucoup. Voilà. Et juste une anecdote, quand on cherchait quelqu'un pour monter les podcasts, il se trouve que je sais très bien que Louis est ingénieur du son, etc. Mais j'ai quand même eu le culot de lui envoyer un message pour lui demander « Est-ce que tu connaîtrais quelqu'un qui serait intéressé dans le montage du podcast ?» sans penser une seconde qu'effectivement, il était le candidat idéal.
Oui, c'était très, très drôle. Je me suis dit, mais tu es sérieux de me demander ça si tu veux, moi, je peux le faire.
Ouais, parce qu'en fait, en plus, Louis, tu avais déjà fait notre jingle au tout début du podcast.
Oui, c'est vrai. Le petit jingle et les petites virgules pour les différentes sections.
Ouais, donc tu étais impliqué depuis le début. En fait, c'était déjà écrit que tu finirais par faire notre montage. Bon, alors, on voit que ce que tu fais, c'est extrêmement varié. Et donc, peut-être que nos auditeurs se demandent comment tu as fait pour en arriver là, quelles études, quelles rencontres peut-être.
Eh ben, j'ai fait moi de longues études parce que j'adore étudier, parce que je trouve ça fantastique d'être étudiant, d'apprendre, et aussi parce que l'école que je voulais, j'ai mis beaucoup d'années à y entrer, donc ça a aussi un peu rallongé mon parcours. Alors moi, comme école, j'ai fait le Conservatoire National de Musique de Paris. Et l'intitulé de la formation, ça s'appelait « La formation supérieure au métier du son ». Et mon diplôme s'appelait « Musicien ingénieur du son ». Donc, j'ai vraiment épousé l'intitulé du diplôme, ce que je fais aujourd'hui. J'ai quand même bien choisi la formation que je voulais faire pour plus tard. Et donc, au sein de cette formation, justement, on apprenait à la fois le savoir-faire technique d'enregistrer, de mixer, et à la fois, on avait des cours d'arrangement, de composition, de formation musicale, d'instruments, voilà. Et dès le début, moi, je voulais faire ça, j'étais encore au collège. J'avais déjà vu l'école pendant mon stage de troisième. Je me suis dit, ah, c'est ça que je veux faire, voilà.
Est-ce que tu pourrais raconter comment tu as réussi à avoir cette école ? Parce que effectivement, le chemin, il a été long. Et je trouve limite que le chemin est le plus important que la destination.
Oui, bah, c'est vraiment ça. Parce que pour faire cette école, il fallait faire une classe prépa, comme a fait Hélène. Donc moi, j'ai fait une classe prépa, non pas littéraire, mais une classe prépa scientifique. Et pour rien arranger, on était au sein d'une classe prépa scientifique et on était 8. En plus de la classe prépa, on avait le soir des cours au conservatoire pour préparer justement cette école. Donc, c'était un peu fou comme période, mais en même temps, j'avais 18 ans, c'était en Bourgogne, donc j'avais quitté Paris pour aller dans cette école-là.
Parce que c'était la classe préparatoire qui préparait le mieux à ce fameux concours pour cette école.
Voilà, on était 8 à intégrer cette classe prépa et au conservatoire, ils en prenaient aussi que 8. On savait qu'il y en avait qui n'allaient pas avoir cette école-là, qui allaient avoir d'autres écoles. Et donc moi, la première fois que je l'ai tenté, j'ai passé tous les tours, c'est un peu long, mais voilà, j'ai passé les différentes étapes et je suis arrivé 9e. Donc, je suis arrivé à une place près, premier sur liste d'attente. Donc, évidemment, personne se désiste quand on est pris là-bas. Et donc, j'ai retenté une deuxième fois. On appelle ça 5 demi, une troisième année de prépa. Et là, j'ai été 10e, donc 2e sur liste d'attente. Et j'ai eu d'autres écoles, donc j'ai fait une autre école d'un an, un peu concurrente. Mais moi, dans ma tête, c'était pas possible. J'étais depuis petit, je voulais faire ça, donc j'ai fait non. Je le repasse une troisième fois. Vu que j'étais sur liste d'attente, il y avait une dérogation pour pouvoir le passer une troisième fois. Et j'ai fini. Ils ont eu pitié et ils ont fini par me par me prendre. Ça a mis beaucoup de temps. Et finalement, la formation était très bien. Quand je suis sorti de là, c'est comme quand on parlait des écoles de commerce. Évidemment, il y a des choses, j'ai eu des avantages, que ça soit un petit peu pour le réseau, pour mon mémoire, j'ai eu une bourse. Il y a eu pas mal d'avantages, mais franchement, j'aurais fait, je pense, une autre école. Ça aurait été, je m'en serais aussi bien sorti, je pense, quoi. Mais dans le cerveau, on est quand même dans ce truc de réussite. En France, moi, j'étais vraiment là-dessus. Il faut que je fasse une classe prépa, il faut que j'ai une grande école. Surtout si je veux être artiste, il faut une école sérieuse, etc.
Ouais, on voit qu'il y a les parents derrière aussi.
Oui, ouais. Bah oui. Et aujourd'hui, tous les chemins sont possibles.
Ouais, bah c'est vrai que c'est assez fou hein, comme parcours. On voit beaucoup de détermination en tout cas. Et c'est vrai que, comme tu dis, peut-être que ça aurait marché autrement, mais on peut quand même être fier, je pense, d'une telle détermination. Bah écoute, c'est super intéressant on va continuer. On a encore des questions à te poser. Alors les amis, restez avec nous et on va passer à la section suivante.
La minute culture. Pour cette partie, on voulait te demander une recommandation. Comme tu dois connaître plein d'artistes français ou francophones, peut-être plus indépendants, et nous on connaît les grandes têtes d'affiche. Est-ce que tu connaîtrais un ou une artiste qui serait adapté aux apprenants du français. Donc quelqu'un qui parle français et de manière assez distincte.
Je pense à un chanteur que j'aime beaucoup qui vient de sortir son deuxième album, mais son premier était en anglais, donc on va dire que c'est son premier en français. Il s'appelle Alyosha Schneider. Alors peut-être que vous le connaissez, je ne sais pas. Il fait partie de la fratrie des frères Nils Schneider. C'est un peu une famille d'acteurs. Et il a sorti son premier album en français et il a une très, très belle voix. C'est pop folk, très doux, très romantique.
Est-ce que Alyosha Schneider, c'est l'acteur qui joue dans Salade grecque sur Netflix?
Exactement, c'est okay. Lui, voilà. Et je l'ai trouvé aussi craquant que dans son album.
Ah ouais, c'est sûr qu'il est plus que craquant.
Il est très, très mignon.
Hélène, tu l'as vu, Salade grecque, ou pas?
Non, je ne l'ai pas vu, mais je pense que je vais le regarder.
T'avais vu Casse-tête chinois, Auberge
oui.
espagnole.
Les poupées oui. russes.
Les poupées russes. Et donc là, c'est le quatrième de la saga, Salade grecque. Moi, je trouve que c'est le moins réussi. Désolée.
Ah oui, c'est carrément le moins réussi. Je trouve aussi le fait de l'étirer sur une série, je trouve que ça marche moins bien. Mais ça fait plaisir de revoir oui. Romain Duris. On en parlait de Romain Duris aussi dans un autre épisode.
Alors, on n'en reparlait pas, toi.
Oui, oui, mais moi, j'ai l'impression d'être avec vous, moi. C'est vrai. Mais oui, il y a Romain Duris qui est un superbe acteur, Cécile de France, et ils font quand même des petites apparitions, donc ça faisait plaisir. Et sinon, Juliette Armanet, je pense que pour les apprenants, ça peut être très bien. Les paroles sont, des fois c'est très imagé, mais ça reste assez simple à comprendre. Sa voix peut, moi je sais que ma copine, sa voix l'énerve beaucoup, mais moi j'adore cette petite voix au perché. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, vous, de Juliette Armanet.
Hélène, tu vois qui c'est ou pas?
Ouais, je vois qui c'est. Elle est souvent sur France Inter, non?
Oui, elle passe sur France Inter.
Moi, j'aurais vraiment dit que c'est la cam d'Hélène.
Je connais pas bien.
Ah, ok, d'accord. Moi, j'ai vraiment du mal. C'est un peu les artistes... je les trouve pas très accessibles. Je trouve qu'ils ont un public un peu snob.
Ah ouais, oui, c'est vrai. Peut-être très parisien, c'est vrai. Peut-être ouais. très parisien. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
C'est le sentiment que j'ai. Mais c'est vrai qu'elle chante très, très bien.
En tout cas, les amis, on vous mettra tout ça dans les show notes. Donc, ne vous inquiétez pas. Si vous voulez retrouver ces artistes et que vous n'avez pas compris ou pas bien compris les noms, tout sera dans la description du podcast. Et on vous en souhaite une très bonne découverte. On passe à la suite?
C'est parti.
J'ai capté.
Dans cette section, Louis, j'aimerais que tu expliques un peu à nos auditeurs ce que c'est que le statut d'intermittent du spectacle, qui est donc ton statut professionnel, je crois, et qui est, il me semble, une spécificité française.
Effectivement, c'est un système qui est vraiment unique au monde, qui n'existe nulle part ailleurs. On dit souvent un statut, mais c'est plus un régime. On appelle plus ça le régime de l'intermittence. Je me suis un petit peu renseigné parce que je me suis dit, alors depuis combien de temps ça existe? Et ça fait très longtemps, ça fait depuis les années 1936 que ce système est mis en place.
Donc quand la gauche était au pouvoir?
Oh oui, voilà. En gros, ça permet aux artistes, aux techniciens du milieu du spectacle, de l'audiovisuel, du cinéma, d'être indemnisés, c'est-à-dire de recevoir une somme d'argent les jours où ils n'ont pas de contrat. Un artiste, par exemple, un musicien, avant de faire des concerts et de se produire, eh ben, faut qu'il travaille son instrument, qu'il travaille ses compos, qu'il crée. Et tout ça, ça lui prend beaucoup de temps et donc il n'est pas payé pour ça. Donc, ça permet à un comédien qui prépare un rôle, à tous ces gens du milieu du spectacle, de pouvoir avoir une somme vraiment minimum pour vivre un peu de son art et de ne pas avoir un job alimentaire.
Et donc, cette somme d'argent, donc, c'est payé par le gouvernement?
C'est payé par le gouvernement. Pour pouvoir bénéficier de ce régime, il faut faire un certain nombre d'heures à l'année. Donc, par exemple, selon les réformes, ça change, mais en ce moment, il faut faire 507 heures en un an. Pour un artiste, quand il se produit une fois sur un concert, on considère qu'il a travaillé 12 heures. C'est un cachet qui correspond à 12 heures. Donc, si on fait rapidement le calcul, un artiste, pour avoir ce régime-là, il faut qu'il fasse un peu plus de 40 concerts par an. Donc, 40 concerts, on peut se dire, bah, il travaille que 40 jours, mais c'est très difficile de faire 40 concerts dans une année. Et pour un technicien, on compte pas comme ça, on compte plus à l'heure, et souvent les journées, c'est des journées de 8 heures. Donc, pour pouvoir avoir ce régime, il faut faire à peu près 60-65 jours de travail. Mais par exemple, pour un technicien, quand il va faire un enregistrement, il va préparer tout son matériel, va aller chercher le camion la veille, etc. Il va faire l'enregistrement, il va rentrer le lendemain, il va tout redéposer. En fait, il aura eu un cachet, mais pendant 3 jours, en fait, il aura été mobilisé pour ce projet-là. Ceux qui sont un peu contre ce système-là vont dire, mais c'est des grands feignants, ils ne travaillent pas du tout et ils sont aidés par le gouvernement. Mais c'est vrai que ça permet vraiment à tout un écosystème, à tous les gens du milieu de la culture, de pouvoir avoir un salaire minimum. Et c'est pas du tout des...
C'est pas des grosses sommes.
C'est pas non plus immense comme aide, mais ça permet d'avoir quand même un minimum les jours où il y a vraiment des périodes creuses. On a la chance d'avoir un système qui est quand même très utile pour, moi je pense, pour la société.
On a beaucoup d'informations.
Oui. Alors peut-être que je parle un peu trop rapidement. Là, je vais peut-être parler un peu trop lentement. Dites-moi.
Ah, je pense pas.
Je pense que ça va.
D'accord, très bien.
Bon, si ça vous dit les amis, on va continuer un peu.
Ok.
C'est parti.
Au défi.
Dans cette partie, on a pensé à quelques questions pour te mettre au défi et savoir si tu étais bien concentré pendant le montage de nos épisodes.
Ouh là là, la pression, la pression.
Ok. Alors, première question. Dans tous les podcasts que tu as montés, de quel sujet n'avons-nous pas parlé ? L'humour français ? Les plus belles villes de France ou les arrondissements de Paris ?
Ah, tout de suite, les plus belles villes de France, numéro 2. La première, l'humour français, oui, ça je me souviens. Et les arrondissements, je me souviens que j'étais un peu vexé parce que pendant 2 ans, moi j'ai vécu dans le 12e arrondissement et j'adore le 12e arrondissement parce que justement, je trouve qu'on est juste à côté du 11e. Évidemment, un de mes quartiers préférés, mais il y a beaucoup de bars, je trouvais ça un peu bruyant, donc on sort dans le 11e et après, on va dormir au calme dans le 12e, qui est vrai, est un quartier plutôt très calme, plutôt familial, où il n'y a pas non plus un milliard de choses. Voilà.
Et tu es à côté du bois de Vincennes.
Et oui, je suis juste à côté du bois de Vincennes, effectivement.
Désolé à tous les habitants du 12e.
Alors, la question suivante, dans quel épisode a-t-on parlé des enterrements de vie et de jeunes filles ?
Ah, je pense que je l'ai. Je ne sais plus si c'était ça le thème, mais c'était sur l'influence qu'avaient les États-Unis sur nous. Mais c'était ça le thème principal ?
Ouais,
c'est ça,
exactement.
Okay.
Exactement. Oui, oui. Les coutumes importées des États-Unis qui sont maintenant à la mode
c'est
en
ça.
France.
Et moi, d'ailleurs, je me marie, moi, en juillet.
Ah.
Et donc, je ne fais pas d'enterrement de vie de garçon. Mon témoin m'a demandé, très gêné, « Tu veux vraiment faire ça ?» Non. Il m'a dit, « Ah, super, je suis soulagé. » Par contre, ma copine ne va pas y échapper. Et elle, je pense qu'elle a envie quand même de faire quelque chose.
Eh ben, en tout cas, félicitations à toi.
Merci.
Pour ton mariage et pour avoir bien répondu à la question.
Oui. Alors, autre question. Quel est le prix littéraire dont nous parlons dans l'épisode « Les meilleurs livres pour progresser en français » ?
Ah, vous avez adoré les prix Goncourt des lycéens, c'est ça ?
Ouais.
Oh là 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 là.
Bravo, bravo.
Bravo.
Alors, une question qui sera peut-être un peu difficile. Quelle série Netflix a-t-on mentionné dans notre épisode concernant le travail ?
Ah, alors, concernant le travail, est-ce que c'était Emily in Paris sur...
Oui.
Ouais, bien sûr, je me souviens. Oui.
Bravo.
Mais c'est un sans faute.
Ouais, trop fort.
Trop bien. Bon, ben voilà, vous avez la preuve que je ne sous-traite pas mon travail à un assistant. Pourtant que je vais bronzer.
Génial, génial.
Bon bah super, merci beaucoup Louis. Et on passe à la section suivante, ma préférée.
Je râle, tu râles, nous râlons.
Dans cette petite section, est-ce que tu pourrais nous dire un peu ce que tu n'aimes pas dans ton travail ?
Oui, moi j'ai la chance, comme je disais, d'avoir un métier passion. Mais bon, il y a quand même toujours des inconvénients dans un métier, hein. Et donc, moi, je dirais Avant, ça me dérangeait pas trop, mais maintenant, le fait de devoir être beaucoup en déplacement le week-end, pendant les jours fériés, etc. J'ai une copine qui a des horaires vraiment de bureau et donc qui a son temps libre le week-end. Mais c'est vrai que des fois, quand j'ai plein de concerts le vendredi, samedi, dimanche, je me dis, oh, j'aimerais bien des fois avoir mon week-end tranquille. Voilà.
Ça se comprend.
Et sinon, une autre chose, il y a des périodes creuses où j'ai pas beaucoup de contrats. Bon, je me suis jamais trop inquiété, mais ça peut arriver. C'est évidemment un des désavantages de ce métier-là. Disons que moi, encore aujourd'hui, je sais à peu près ce qu'il y aura le mois prochain, mais dans deux mois, je sais pas du tout ce que je vais faire comme travail. Et toute ma vie est un peu comme ça. Et ça se passe bien, donc ça va, mais je sais que faut être assez rassuré pour se dire, bon, je sais pas ce que j'aurai dans deux mois, mais j'aurai sûrement quelque chose. Ça va bien se passer. Voilà.
Faut pas être très anxieux, quoi.
Voilà, c'est ça. Et être toujours aussi, être un peu, être curieux, être un peu à l'affût, un peu de toutes les nouvelles opportunités de travail. Faut être toujours un peu en, moi, j'ai l'impression d'être toujours un peu en constance recherche, un peu d'emploi, sans me dire, oh là là, faut que je trouve un travail, mais j'essaye de toujours, me renseigner, envoyer des mails, relancer des gens avec qui j'ai travaillé, que ça s'est bien passé, dire coucou, j'espère que tu vas bien, on prend un café. Voilà, il y a toujours quand même ce truc-là de vouloir de développer son réseau continuellement. Voilà.
Ouais.
Et petite question.
Oui.
Est-ce que tu as beaucoup de paperasse liée au régime d'intermittent du spectacle?
Alors oui, il y a quand même un peu de paperasse et donc il y a même plein d'intermittents qui passent par des structures qui vont s'occuper de ça, c'est-à-dire qui payent une structure pour faire leur démarche. Moi après je suis un peu, j'adore, je vais pas dire que j'adore Excel, mais j'ai mes petits tableaux Excel, je suis quand même un peu organisé et donc tous les mois il faut aller sur Pôle emploi, France Travail, et il faut dire alors j'ai travaillé ce jour-là pour tel montant avec tel employeur, et donc faut tout remplir et après faut envoyer ça. Faut quand même bien trier, c'est parce que des fois il y a non mais on n'a pas reçu le justificatif, donc faut renvoyer un justificatif. Donc ça arrive pas souvent, mais
le
ça arrive.
Le cauchemar de Judith.
Voilà.
mais surtout que toi tu as plusieurs employeurs, quoi.
Voilà, je dois avoir, je sais pas, 6-7 employeurs par mois. Donc, faut bien trier. Il faut avoir un petit dossier classé par mois, par employeur. Et puis, quand on a un contrat, on n'a pas un papier. Il y a le contrat de travail, il y a la fiche de paye, il y a l'AEM, c'est l'attestation employeur, c'est pas très important. Et on a les congés spectacles qui sont un peu nos congés payés. Donc, on a 4 documents à chaque contrat. Et donc, c'est vrai que ça fait beaucoup. Alors, je vous laisse imaginer quand j'ai dû justifier tous mes salaires pour acheter mon appartement à la banque. Ils voulaient avoir mes justificatifs de mes 3 dernières années de travail. Donc, ils ont eu un PDF de 225 pages, quoi. C'était obligé. Donc, wow. Oui, il faut pas avoir la phobie administrative, je pense, pour
Ah ouais.
Il y a plein d'artistes, ils sont pas du tout là-dedans. Et donc, ils délèguent. Ils disent, non, ça, je veux pas m'en occuper. Je préfère payer quelqu'un, 50 euros par mois qui gère tout ça. Et quand il y a un souci, voilà.
Bah oui, parce que ça peut être paralysant complètement. Et c'est génial qu'il existe des structures pour déléguer ce genre de tâches qui sont impensables pour certaines personnes.
Oui, c'est ça. Et puis l'employeur a jusqu'au 15 du mois suivant pour les envoyer. Mais donc, des fois, ils mettent du temps. Donc, plusieurs fois, ça m'arrive de relancer, dire « Eh ben, envoyez-moi mon justificatif. Tant que j'ai pas la preuve que vous m'avez bien déclaré, je peux pas déclarer mes activités à Pôle emploi et donc, je ne suis pas payé. » Les dépenses un peu mensuelles, j'ai tout mis à partir du 15 parce que si je mets à partir du 1er, je suis jamais payé le 1er du mois, quoi. Ça n'arrive jamais pratiquement, à part quelques employeurs qui sont pointus. Sinon, c'est toujours un peu plus tard. Voilà. Au début, c'était un petit inconvénient, mais bon, moi, ça va. Je le vis pas trop mal.
Bon, tant mieux. Hein,
voilà.
C'est, c'est impressionnant. Bon, on termine avec la partie joyeuse.
Les ondes joyeuses.
Louis, est-ce que tu peux nous parler de 2-3 expériences professionnelles vraiment marquantes? Ce qui te vient, et si tu peux nous dire un peu des stars que tu as déjà rencontrées aussi, c'est cool.
Ok. Alors déjà, la première chose à laquelle je pense, c'est juste avant d'entrer vraiment dans la vie professionnelle, j'ai fait, comme je l'avais un peu dit, un mémoire à la fin de mes études sur, c'était en gros, sur la musique de film. Et donc, je m'étais fixé comme objectif de rencontrer tous mes compositeurs favoris de musique de film, tous les ingénieurs du son, producteurs que j'admirais et en fait que j'ai pu interviewer. Donc ça, c'était vraiment génial de faire ça pendant un an, d'interviewer, je sais pas, 60 personnes et de me faufiler un peu partout. Et en plus, j'ai eu une bourse qui disait, si tu arrives à rentrer et à assister à des séances d'enregistrement de musique de film, eh ben, on te finance le voyage. Évidemment, c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de confidentialité pour assister à ces séances d'enregistrement parce que le film n'est pas encore sorti. Mais j'ai réussi à aller à Londres deux fois, je suis allé à Prague, je suis allé deux fois en Belgique, je suis allé dans tous les grands studios. Tous les studios qui me faisaient rêver, j'y suis allé. Donc c'était vraiment une expérience complètement dingue. Et puis en plus, ça se décidait vraiment à la dernière minute parce qu'il fallait la validation de 25 personnes de l'équipe. Quand c'était des films un peu internationaux, c'était très compliqué. Mais je m'acharnais un peu et je me suis dit, mais il faut absolument que je le fasse. C'est le moment un peu d'assister à ça.
Et donc, est-ce que tu as assisté donc à un enregistrement pour un film connu internationalement?
Alors, les films un peu internationaux, c'était des dessins animés, mais finalement qu'il n'y a pas de nom, de Star Wars ou de grand Disney ou de choses comme ça. Après, c'était surtout beaucoup de films français et qui était en fait beaucoup en Belgique parce que la Belgique a beaucoup de partenariats avec la France et donc c'était essentiellement quand même des films français. Et heureusement parce que j'avais pas un très bon anglais, donc je n'ai pas fait la chaîne Easy English. Voilà. Donc voilà, après, tu me parlais de star. Enfin, pour moi, c'est un artiste que j'admirais beaucoup, enfin, que j'admire beaucoup. C'est que l'année dernière, un peu à la dernière minute, on nous a appelé avec une rappeuse qui s'appelle Petite Gueule pour faire la première partie d'Orelsan. Alors,
wow.
Alors Orelsan, alors je sais pas si les apprenants y connaissent, mais c'est vraiment l'année dernière et l'année avant, c'était le grand rappeur qui a vendu le plus de disques et qui a tout raflé et que moi j'écoute depuis que je suis au collège, quoi. J'ai tous ses albums chez moi, etc. Et c'était un peu fou parce que on nous a prévenu, je pense, une semaine avant. On avait déjà des dates, donc on n'était pas disponible en fait à la date. Mais évidemment, quand Orelsan t'appelle pour faire sa première partie, tu dis bon bah faut annuler le concert. Donc ça a été tout un truc parce que on était sur une série d'un concert d'un même organisme et donc on a dû leur dire non bah là en fait on va arrêter, on part. Là ils ont très bien compris. Et c'était aux arènes de Béziers. Donc nous on jouait dans des petits villages, donc on jouait avec entre 100 et 150 personnes, on va dire. Et on s'est retrouvés, on a dû prendre un train à 4h du matin, faire 4 changements pour aller, on était je sais plus où dans le nord, il fallait aller à Béziers, c'était vraiment un truc pas possible. Et on s'est retrouvés juste pour les réglages. Et c'était 8000 ou 9000 personnes tout d'un coup qui étaient autour des arènes. Donc c'était un peu dingue. Et à peine moi j'arrive, il y a Orelsan qui vient me voir, qui me fait « Salut, c'est toi qui fais la première partie ».
Non, c'est
et tout.
Pas vrai.
C'était surréaliste en fait. En fait, tout d'un coup, on était lavé, on était dans un petit village et là, il y a Orelsan qui me parle et je mange avec lui, avec toute son équipe, avec Scred, enfin avec tous ses amis que moi je connaissais. Il y avait un documentaire qui était sorti et moi je suivais vraiment toutes leurs aventures. Et donc là, j'étais en train de lui donner de la salade au buffet, quoi. C'était complètement, c'était complètement fou. Et donc, et le concert s'est super bien passé, l'équipe était super sympa et donc j'ai passé vraiment genre une soirée avec tout le monde, quoi. Donc c'était un grand moment, je m'en souviendrai de cette date-là. Voilà.
Alors franchement, c'est totalement dingue. je pense que c'est une bonne, très très bonne note, très très joyeuse
très
et
joyeuse.
Positive pour finir notre épisode du jour.
Ouais, vraiment, merci Louis pour toutes les anecdotes que tu as partagées. C'était hyper intéressant d'en apprendre sur toi et sur ton métier, tes métiers et ton statut d'intermittent du spectacle en France.
Merci beaucoup. Je suis très content d'avoir été avec vous les filles.
Bah vraiment, ouais, c'est super. Les amis, on espère que ça vous a plu. Et si vous êtes membre de notre belle communauté, restez bien avec nous parce qu'on va encore parler un petit peu dans le bonus de choses un peu croustillantes.
Oh.
Alors, on vous dit à tout de suite. Et pour ceux qui nous quittent maintenant, on vous dit à la semaine prochaine.
Au revoir.
Au revoir. Thank you.